Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique.
La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Après avoir dénoncé une injustice à l'endroit des pratiquants, la table interreligieuse de concertation s'est entendue avec le gouvernement dans le cadre des règles pour prévenir la propagation de la COVID-19. Et au bout du fil pour en discuter, Pierre Morey, secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous en êtes venu à une sorte de compromis, là. Il va pouvoir y avoir des célébrations à l'extérieur des zones rouges, évidemment.
Ben, à l'extérieur des zones rouges et à l'intérieur des zones rouges. Ça, c'est quand même important. C'est qu'on considérait que d'être classé dans toutes sortes d'amalgames, hein, ça a été reporté un peu à gauche et à droite, là, soit avec des bars ou avec d'autres types d'établissements du même genre, ça ne correspondait pas à la réalité qui se passe dans les lieux de culte. On a fait valoir nos points de vue au gouvernement qui l'a bien saisi, alors ce qui fait qu'à l'extérieur des zones rouges, donc pour les zones vertes, jaunes et oranges, nous sommes assimilés à des salles de spectacle. Donc la capacité maximale est de 250 ou moins, parce que parfois nos édifices ne permettent pas de se rendre à ce nombre-là en respectant la distance physique entre les gens.
C'est ça, si l'église est plus petite, et il faut baisser le nombre, là, un peu comme les salles de spectacle, comme vous dites.
Oui, tout à fait. Mais parfois, ça peut être une église de 800 places, mais à cause de la configuration, on n'est pas capable de se rendre plus que 180.
Ah bon?
Savez-vous?
Avez-vous un exemple montréalais? Ou?
Ben, moi, je donne un coup de main de temps en temps à l'église de Sainte-Dorothée, dans Laval-Ouest.
Oui.
Et il y a facilement 800 ou 900 places dans cette église-là, puis le maximum est autour de 180 places. Là.
Mm-hmm.
Parce que c'est un banc sur deux, hein, et on bloque l'accès avec une corde, puis ensuite, ben, s'il y a quelqu'un qui est assis là, il ne peut pas y avoir une autre famille ou quelqu'un d'étranger assis tout à côté, donc il faut respecter tout ça.
Mm-hmm.
Ce qui fait que ça prend vraiment un très, très grand édifice pour qu'on se rende à 250. Je pense à l'oratoire, à
oui.
La basilique Notre-Dame, la cathédrale, Saint-Jean-Baptiste, les églises du plateau Mont-Royal qui sont immenses, mais pour beaucoup d'églises, on ne se rend pas à 250.
Oui, OK.
Donc, on fait nos devoirs très sérieusement. L'autre annonce qu'a faite le premier ministre lundi, c'est que dans les zones rouges, il sera possible de continuer à accueillir les fidèles. Mais
25 personnes seulement, hein, c'est ça? C'est
25.
Oui.
C'est ça. Et l'autre chose, c'est que pendant la première vague, alors que tout était fermé, il était possible de faire des funérailles dans les salons funéraires,
mm-hmm.
mais pas dans les églises. Alors, pendant cette étape-ci, dans la zone rouge, une famille qui souhaite vivre les derniers adieux de son défunt ou de sa défunte pourra se rendre à l'église et que ce soit au salon funéraire ou dans une église, la limite de personnes qui pourront participer à l'événement est de 25.
Mm-hmm.
Ça fait que tout le monde est traité de la même façon. Les croyants n'ont jamais voulu de privilèges, ils ont juste voulu être traités raisonnablement de la même façon que tout le monde.
Dans la table interreligieuse de concertation, ou plutôt à cette table-là, il y a plusieurs religions. Est-ce que le défi se pose de la même façon? Moi, j'ai déjà parlé à Sainte-Guillet, à ce micro, là, qui est justement le représentant des communautés musulmanes. Mais est-ce que ça se présente de la même façon ou il y a des défis particuliers pour chaque religion?
Chaque religion a des défis. Par exemple, dans les communautés juives ultra-orthodoxes et dans les communautés, beaucoup de communautés musulmanes, c'est l'exiguïté des lieux. Alors, plusieurs comme nous ne pouvaient pas se rendre à 250. Alors, on imagine qu'avec une limite à 25, il y a quand même beaucoup de gens qui ne pourront pas participer au service. Alors, c'est ce genre de choses-là essentiellement que l'on rencontre. On sait, par exemple, que certaines communautés, la pratique pour les croyants, elle est très, très, très importante. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup d'aménagements qui permettent une certaine souplesse, alors que pour d'autres, on arrive à une certaine souplesse.
Mm-hmm. On pourrait dire, de façon presque narquoise, que la chute de la pratique religieuse dans l'Église catholique au Québec aide au respect des règles de la COVID. Est-ce que c'est le cas?
Ben, de fait, hein, on a des bâtiments, des édifices sacrés, des églises qui ont été construits à une époque où il y avait peut-être 80 ou 90% de pratiques religieuses. Maintenant, on est beaucoup moins que ça, puis on a encore, pour la plupart, les mêmes temples. Alors, c'est sûr que là, on a une marge de manœuvre que d'autres n'ont pas. Parce que quand les communautés juives et musulmanes ont voulu s'établir, ben déjà, le paysage était construit, il y a les règles d'urbanisme, etc. Alors, c'est pas du tout la même réalité, là.
Mm-hmm. Il pourrait y avoir des temples qui soient transférés d'une religion à l'autre. Est-ce que c'est le cas? Je pense à quel point on démolit des églises actuellement au Québec. Est-ce que ça arrive?
Écoutez, vous savez, quand on parle, par exemple, de conversion d'église, on pense toujours à des espèces de complexes de condos. Or, c'est l'exception. C'est l'exception parce que les coûts de conversion d'un édifice comme ça en unité de logement est énorme et les frais d'entretien sont énormes. Les assurances coûtent la peau des fesses. Alors, c'est très exceptionnel. Ce qui arrive le plus souvent, dans la vaste majorité des cas, c'est qu'une église catholique devient une église protestante, devient un autre type de temple. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'il y a de plus commun. Ça se fait depuis des années, particulièrement dans la région de Montréal.
Oui, mais il y a quand même énormément de démolitions actuellement. Là, je change un peu de sujet. Là, je glisse sur un sujet, moi, qui me préoccupe beaucoup, c'est le patrimoine. Et on a eu l'impression, dans les dernières années, puis dans les derniers mois même, que c'était pas une préoccupation de l'Assemblée des évêques ou de l'archevêché ou des archevêchés. Je pense, par exemple, à la réaction du cardinal Lacroix, quand la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a classé l'église Saint-Sacrement pour empêcher sa démolition. Je me surprends toujours, il semble pas y avoir une sensibilité au patrimoine dans les autorités religieuses, dans le clergé.
Ben écoutez, là, je vous contredis à 100%, puisque ça fait des années que sans subvention, Les prêtres impliqués en paroisse, les équipes pastorales, les membres des conseils de fabrique font des miracles pour tenir à bout de bras l'entretien. Faute de ressources, bien sûr, il y a une carence d'entretien, mais c'est pas parce qu'il y a un manque d'intérêt. Les gens sont attachés à leur église. Les évêques souhaitent conserver ces trésors d'architecture et d'histoire. C'est l'intérêt, là, il est là depuis toujours. Ça serait tellement plus simple de dire on fait un coup de crayon puis on repart à neuf dans des plus petits locaux mieux adaptés à nos besoins. Mais c'est pas ça qui se passe.
Mais la réaction du cardinal Lacroix au classement de l'église Saint-Sacrement, ça a été de dire c'est une vieille église qui tombe en morceaux, c'est dangereux, on comprend pas, on ne s'explique pas la décision de la ministre.
Ben, c'est-à-dire que là, je peux pas entrer dans le détail parce que je suis pas au fait, là, vous me prenez un peu...
Oui, pardon.
C'est pas le sujet de notre entrevue, mais ce qui était surtout dénoncé, c'est que cette décision-là est venue sans aucun dialogue. Et là, on revient à notre point de départ, c'est-à-dire que ce que l'on demande aux autorités, c'est d'être des partenaires d'un dialogue et de pas se faire imposer d'en haut des choses. On a souffert de ça dans la pandémie. La situation que vous évoquez à Québec, c'est exactement la même problématique. Mm-hmm. C'est que quelqu'un, quelque part, décide quelque chose sans en parler à personne. Mm-hmm. Et ça crée de l'incompréhension, évidemment, puis des frustrations.
Oui, dans votre premier communiqué, vous étiez vraiment vindicatif à l'égard du gouvernement. Vous disiez, par exemple, qu'on ne répondait pas à vos lettres, vos courriels, les téléphones n'avaient pas de suite. Pensez-vous qu'il y a un lien entre cette indifférence-là et le parti pris du gouvernement pour la laïcité?
Écoutez, il faudrait demander ça au gouvernement. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on constate que nos efforts d'entrer en dialogue ont été constants depuis le début et que la réponse du gouvernement a été très lente. Hein. J'ai fait l'inventaire. Là, mes premières communications avec le gouvernement pour tâcher d'établir des ponts de communication, des canaux de communication, datent du 3 mars dernier.
Ah
dès,
bon?
Avant,
okay.
Dès avant la pandémie. Alors, on la voyait venir, hein? Et puis nous, on disait, ben, écoutez, nous, on rassemble des gens tous les dimanches et parfois plus. Ce serait peut-être bon qu'on se parle pour qu'on se prépare à ça.
Oui.
Et ça a été ignoré. Ce n'est qu'à partir de la fin mai qu'un fonctionnaire nous a été attitré, que là, les choses ont commencé à bouger, mais ce n'était pas de discuter avec les gens qui prennent des décisions.
Donc là, ça s'est amélioré.
Depuis cette semaine, ça s'est amélioré puisque nous avons eu mardi matin une rencontre avec le docteur Arruda, mm-hmm. une rencontre que nous avions demandé dès le 31 août dernier pour justement discuter avec les autorités de ce qui allait se passer dans une deuxième vague, pour offrir notre collaboration et pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passait dans les lieux de culte, parce qu'on, étant donné qu'on n'est jamais classé dans la bonne catégorie, on comprend bien qu'ils ne saisissent pas qu'est-ce qui se passe dans les lieux de culte. Alors là, depuis lundi, enfin, on est classé dans quelque chose qui est plus acceptable, plus raisonnable, plus sensé, et on discute avec des gens qui sont dans les postes de décision. Alors, ça, c'est parfait. Si ça avait eu lieu il y a des mois,
ouais.
on n'en serait pas là aujourd'hui.
En terminant, qu'est-ce que vous pensez des religieux aux États-Unis, surtout une certaine droite religieuse, je dirais, qui, au début de la pandémie, a dit « on est protégé par le sang du Christ, on est, y avait un aspect magie à la religion et on a l'impression que ça a préparé une certaine indifférence de croyants aux États-Unis à l'égard des règles sanitaires. » Est-ce que la religion peut être une espèce d'opium dangereux dans cette pandémie-là?
Écoutez, la réalité du monde religieux aux États-Unis, elle est hyper complexe, hyper variée, hyper diversifiée. Il y a de quoi y perdre le latin qu'on n'a peut-être même jamais appris. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la perspective catholique que je connais bien,
oui.
c'est que Dieu ne vient pas jouer constamment dans les lois de la nature.
Oui.
La nature a ses lois, hein, et on doit se déployer tous les efforts pour tâcher de la connaître. Hein. Par exemple, c'est un prêtre qui a mis sur la table la théorie du Big Bang.
Oui, oui.
C'est un prêtre. Hein? Et bien sûr, on peut assimiler la religion à une pensée magique, mais
oui.
ça reste une pensée magique. Les faits sont là. Vous savez, il y a une petite blague, hein? Quelqu'un qui est en détresse, il y a une inondation, puis là, il est pris sur son toit, puis là, il dit « Dieu va me sauver ». Là, il y a une chaloupe qui passe, puis le type dit « Non, non, laissez faire, Dieu va me sauver.
Mmh. »
Puis ensuite, il y a les pompiers qui passent, puis ensuite, l'hélicoptère qui vient le chercher, « Dieu va me sauver. » Finalement, il meurt noyé, il arrive devant Dieu, et Dieu, il dit à Dieu, « Ben, j'ai appelé à l'aide, t'as rien fait. » Il dit « Attends, là, je t'ai envoyé une chaloupe, les pompiers, puis l'hélicoptère. » Ah, voyez-vous, aide-toi et le ciel t'aidera d'une certaine façon. Alors, je veux pas condamner quoi que ce soit, mais quelque part, il faut apporter un peu de raisonnabilité dans la façon d'apprécier à la fois la religion, mais après, les réalités terrestres de scientifiques et factuelles.
Mm-hmm. Donc, c'est ce que vous répondriez à ces gens qui finalement disent que Dieu les protège.
Je vais pas leur répondre, là.
À quoi que vous êtes sur une table interreligieuse de concentration, il y a peut-être de ces discussions-là, non?
Non, ça je peux vous dire là, que...
Il n'y a pas de débat sur le fond. Il n'y a pas de débat sur le fond.
Il n'y a personne qui nie la pandémie, il n'y a personne qui nie qu'il faut faire des choses autres que prier pour lutter contre la pandémie, Et au Québec, là, il y a les gens qui sont autour de la table, puis ensuite, on a des cercles plus élargis. Là. Mm-hmm. Malheureusement, on ne peut pas être 150 autour d'une table comme ça, mais je n'ai encore au Québec rencontré aucun groupe religieux qui soit dans le négationnisme, le complotisme ou des ismes de cette sorte-là. Ça, j'ai pas vu ça parmi les leaders. Mm-hmm. Ils en fréquentent énormément. J'ai pas vu ça au Québec.
Ben, c'est rassurant. Merci beaucoup, Pierre Murray.
Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir.
Pierre Murray est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.